C'est un plaisir de se retrouver, de vous voir. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur le livre de Ruth. Et aujourd'hui, on va voir le thème de la providence de Dieu. Et certains théologiens disent que le livre de Ruth a pour principal objectif d'exposer la providence. Et c'est donc difficile d'étudier Ruth sans passer à côté de ce thème. Et on va faire la lecture de Ruth chapitre 2. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche du clan d'Élimélec qui s'appelait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Vas-y, ma fille. » Ruth alla amasser des épis dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boaz du clan d'Élimélec. Or Boaz vint de Bethléem, il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi donc de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis son arrivée de ce matin jusqu'à présent, elle est restée debout et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas ramasser des épis dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici. Reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, une étrangère ?» Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. » Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche-toi, mange du pain, trempe ton morceau dans la vinaigrette. » Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti, elle mangea à satiété et garda le reste. Puis elle se leva pour ramasser des épis. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle ramasse aussi des épis entre les gerbes et ne lui faites aucun mal. Vous retirerez même pour elle des gerbes quelques épis que vous la laisserez ramasser sans lui faire de reproche. Elle ramassa des épis dans le champ jusqu'au soir, puis elle battit ce qu'elle avait récolté. Il y eut environ 22 litres d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait ramassé. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu ramassé des épis aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Ruth raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boaz, » dit-elle. Naomi dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel qui garde sa bonté pour les vivants comme pour les morts. Cet homme nous est proche, » lui dit encore Naomi. « Il est un de ceux qui ont le droit de rachat sur nous. » Ruth, la Moabite, s'ajouta, « Il m'a dit aussi, « Reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient terminé toute ma moisson. » Naomi dit à sa belle-fille Ruth, « Il est bon que tu sortes avec ses servantes, ma fille, » et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Ruth resta donc avec les servantes de Boaz pour ramasser des épis jusqu'à la fin de la moisson de l'orge et de la moisson du blé. Elle habitait avec sa belle-mère. Je vais prier. Je te remercie, Seigneur, pour pour cette grâce que tu nous fais d'être toujours là pour nous, pour ce test que tu nous donnes qui est encourageant pour nous. Et je te prie pour que tu puisses éclairer nos esprits, que ça pénètre nos cœurs, nos âmes, et qu'on puisse se laisser transformer par ce texte. Je te prie que tu puisses me donner tes mots et que tu puisses faire ta volonté, Seigneur, au travers de ce texte. Amen. Qu'est-ce que la providence de Dieu ? J'ai une question à vous poser. Croyez-vous au hasard ? Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'avais 19 ans, en fait, ma mère était gardienne dans une entreprise et l'entreprise a vécu des circonstances difficiles. Et en fait, on a dû déménager assez rapidement et on ne trouvait pas d'appartement. Et c'était la catastrophe, le stress total dans le foyer. Et on a failli finir à la rue, en fait. On n'avait que 3-4 mois pour trouver un appartement. Et un jour, il y a ma mère qui va faire les courses. Et comme par hasard, elle rencontre quelqu'un qui connaît du monde, en fait, dans l'administration et dans les sociétés de HLM. Et en fait, ça a été un moyen que Dieu a utilisé pour nous donner un logement. Mais ça, à cette époque-là, j'étais pas croyant. Je croyais même pas en l'existence de Dieu. C'est à peine si j'y pensais. Et en fait, après ma conversion, j'ai compris que c'était Dieu qui avait pourvu à nos besoins dans sa providence. Et du coup, vous savez quoi ? Maintenant, j'y crois au hasard. Le hasard avec un grand D comme Dieu. On va juste faire une rétrospective. Est-ce que vous savez que dans les religions animistes, Dieu est perçu comme le créateur qui a gouverné sa création jusqu'au péché d'Adam. Et en fait, depuis l'entrée du péché d'Adam, il aurait abandonné la gouvernance de du monde pour livrer l'humanité entre les mains des sorciers pour qu'ils puissent survivre tant bien que mal dans le monde. Et dans la philosophie fataliste et dans certaines religions, on dit que tout est écrit d'avance et quoi qu'on fasse de bien ou de mal, on n'a rien à apporter dans la destinée du monde et que la providence n'a donc aucun rôle à jouer. Donc Dieu, en fait, sera un dictateur lointain. Il serait à la fois un dictateur et à la fois un Dieu lointain. Mais en fait, la Bible nous enseigne que Dieu est créateur, gouvernant de toutes choses, qu'il est fidèle en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, et elle nous enseigne que nous sommes rendus participants à la providence divine. Qu'est-ce que la providence ? En fait, il y a une définition de la confession de foi réformée baptiste de 1689. Je vous la lis. « Dieu, le bon créateur de toutes choses, dans sa puissance et sa sagesse infinie, soutient, dirige, dispose et gouverne toutes les créatures et toutes choses, des plus grandes aux plus petites, par sa très sage et sainte providence. » Fin de citation. Proverbe 16:33 nous dit que c'est le Seigneur qui décide de tout. Dieu, en fait, a décrété toute chose dans les moindres détails de nos vies, de la création de l'univers jusqu'à la moindre feuille d'arbre qui tombe. Et Dieu gouverne l'intégralité de sa création avec majestuosité, bienveillance, amour et tous les attributs qui le caractérisent. Mais en fait, dans notre intelligence teintée de mal, même en sachant que Dieu est bon et qu'il n'a rien à voir avec le péché, rien à voir avec le mal, parfois on est tenté de se dire que si on était à la place de Dieu, on ferait mieux que lui. Si on avait le pouvoir d'empêcher le péché, on le ferait. Ce qui sous-entend que Dieu ferait les choses de manière stupide et que nous serions plus raisonnés que lui, comme si on était plus intelligent que Dieu. Et en fait, dans sa préscience, c'est-à-dire le fait qu'il sache tout depuis toute éternité, Dieu a anticipé et a décrété ce qui allait arriver avant la fondation du monde. Et si Dieu est provident et que nous sommes participants à son œuvre, cela signifie qu'en vivant la volonté de Dieu dans notre sainteté, nous sommes participants à la providence de Dieu. En fait, il y a un lien intrinsèque entre le fait que Dieu décrète toute chose, sa providence et le service. Les trois ne sont pas opposés, mais ils sont inséparables. Dieu démontre son intelligence, en fait, dans ce texte de Ruth chapitre 2. Il nous montre que dans la providence, il met en place ce qu'il a prévu de manière parfaite et harmonieuse. Et dans les versets 1 à 14, qu'on va prendre, on voit que Dieu veille et agit en toutes choses. Le verset 22 du premier chapitre et le verset 1er du deuxième servent de transition dans l'histoire de Ruth. Ces deux versets montrent des détails entre deux dialogues. Et le verset 1 est un élément en fait déclencheur du texte, car il nous présente Boaz qui était à la fois un homme riche et puissant, et en plus qui était un des proches parents de Naomi, puisqu'il était du clan d'Elimelech. Ce verset est aussi un élément déclencheur dans le sens où il suggère la fin de la misère de Ruth et de Naomi. Ce texte démontre aussi l'importante manifestation de Boaz dans la vie de Ruth et de Naomi. En fait, ces deux femmes avaient tout à se réjouir de la providence de Dieu en rencontrant Boaz dans ces circonstances difficiles qu'elles traversaient. Et on voit en fait dans ce verset clé, ainsi que dans tout le livre, que Dieu, dans sa providence, agence tout dans les moindres détails et il démontre que la providence de Dieu est faite pour notre bien. C'est bien coté, en fait, dans le milieu chrétien, de dire « je suis serviteur de Dieu ». Ça donne du galon. C'est moi le serviteur, écoutez-moi. Mais comme si Dieu avait besoin de nous pour être servi, en fait. Acte 17, 25 dit qu'il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. En fait, nous devrions plutôt dire « je me rends disponible pour que Dieu se serve de moi s'il le veut », sachant que c'est sa volonté de se servir de ses enfants. Et je tends à être serviteur des autres. Et je me rends disponible pour eux. En fait, ce n'est pas nous qui agençons la providence, c'est Dieu qui le fait. Dieu met en place ce qu'il a voulu, et non ce que nous, on a voulu de notre propre chef. En fait, ça paraît étranger pour la pensée du XXIe siècle de dire que Dieu fait tout en fait pour que nos circonstances nous soient favorables. Mais quand Pierre était étonné de voir Jésus laver ses pieds, Jésus lui a dit que ça donnerait une part avec lui. Et du coup, quand Pierre a compris ça, il lui a même demandé de lui laver les pieds et les mains. Et nous sommes aussi étonnés comme Pierre de voir Dieu tout agencé pour notre bien. Et cet acte étonnant de Jésus est un sujet d'émerveillement pour nous. Et cela nous montre l'exemple de comment on doit agir avec les autres. Et si la providence de Dieu concourt à notre bien, à combien plus forte raison nous devrions pas nous servir les uns les autres. Et c'est ce qu'ont fait Ruth et Boaz, fond dans le texte. Au verset 2, Ruth dit à Naomi, « Laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ derrière celui auquel je trouverai grâce. » En fait, elle se lève. Elle prend l'initiative d'aller au travail, décider d'accomplir un travail même difficile. Et pour cela, elle passe par la première étape, demander l'aval de sa belle-mère pour la laisser aller au champ. En fait, elle ne fait pas que demander son aval. Elle fait une supplication, en fait. Elle lui dit « Laisse-moi !» Elle lui dit « Laisse-moi !» Elle pousse le terrain, elle force, elle défonce la porte, comme on dirait. Ce qui montre encore que Ruth a du respect et de la soumission envers sa belle-mère, sa belle-famille et pour les coutumes du peuple qu'elle découvre. Et de la persévérance. Et en fait, Ruth est prête à travailler, à servir pour se nourrir, elle et sa belle-mère. Ses valeurs sont importantes pour être rendue participant à la providence de Dieu. Au chapitre 1, en fait, Ruth s'est convertie, comme on l'a vu la semaine dernière. Et le lapsus révélateur, montre la continuité et les fruits de sa conversion, en fait. Et le verset 3 découle la providence de bienveillante de Dieu qui l'amène dans son champ qui se trouva appartenir comme par hasard avec un grand D à Boaz. Mais quelle coïncidence! Et en plus, au verset 4, Boaz est un exemple de comment on doit réagir en fait avec les plus démunis. Il se questionne, il demande pour qui travaille cette jeune femme. En fait, Boaz ne reste pas indifférent. C'est un exemple pour nous, car en fait, être indifférent face aux démunis est un péché. L'indifférence, quelle qu'elle soit, est un péché. Et nous pouvons, comme Boaz, percevoir les personnes que Dieu a mis autour de nous pour prendre soin d'eux dans les temps difficiles. Et en lisant ce texte au premier abord, on se dit que c'est Ruth qui se met au service de Boaz. C'est vrai, mais en fait, Boaz se met aussi au service de Ruth. En fait, ça ne va pas que dans un sens, c'est un service mutuel. Et en fait, en faisant notre part de service, même si nous ne comprenons pas toujours ce que Dieu est en train de faire, en fait, nous verrons la providence de Dieu. C'est une source de motivation pour nous, pour persévérer. Boaz est toujours bienveillant envers Ruth. Il bénit dès qu'il en a l'occasion. Il bénit les moissonneurs. Il bénit Ruth. Il bénit dès qu'il peut, quoi. C'est un exemple vraiment pour nous, quoi. Et au verset 7 à 9, en fait, on voit que le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs rapporte la motivation, le courage et la persévérance de Ruth à Boaz. Et le travail de cohésion entre Boaz et ses serviteurs, en fait, ça sert à la providence de Dieu. Et Boaz voit sa motivation à Ruth en la laissant travailler dans ses champs. Il voit sa motivation, du coup, il la laisse aller travailler. Il va même jusqu'à défendre à ses serviteurs de la toucher. Il coucoune ce petit bout de femme vulnérable qui est Ruth pour qu'on la laisse travailler tranquillement. Boaz veut même la garder dans son champ en lui disant d'aller travailler avec ses servantes. Il devait être motivé par la motivation de Ruth. Il lui donne même accès à de l'eau que ses serviteurs ont puisée. C'est-à-dire que Boaz, il est en train de rendre Ruth bénéficiaire du travail des autres. Et là, Ruth est complètement touchée. C'est le coup de grâce pour elle. Elle tombe le visage contre terre en se prosternant et elle dit « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, une étrangère ?» Et pour reprendre l'expression de 1 Jean, Boaz fait voir Dieu. Il fait voir Dieu dans son attitude, car Dieu, dans sa providence, s'est intéressé à nous, étrangers de son peuple, pauvres pécheurs que nous sommes, pour nous bénir de toute bénédiction spirituelle. Dieu se révèle au travers des gens, et nous pouvons être son instrument providentiel en vivant l'obéissance à Dieu. Ruth, à ce moment-là, en fait, elle espérait simplement pouvoir récolter ne serait-ce que le minimum pour manger, pour sa survie. En fait, elle était une femme étrangère de surcroît. Son seul destin était d'être perdue dans un pays étranger, mais aller au-delà de ce qu'on disait des femmes et de ce qu'on disait des étrangers. Elle a compté sur Dieu et sa providence. Et quand le destin semble se porter en notre défaveur, il est bien profitable pour nous de compter sur sa sainte providence. En fait, le fatalisme du destin est diamétralement opposé à la providence de Dieu. Au verset 12, Boaz reconnaît le travail et la persévérance de Ruth, car elle lui dit « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Et au verset 14, Boaz invite Ruth à manger avec toute l'équipe de moissonneurs. En fait, elle n'est pas seulement une intérimaire venue pour travailler une journée, et Boaz d'ailleurs ne la voit pas comme ça, mais il va au-delà en l'intégrant dans son entreprise, en la bénissant davantage. Bon, en fait, Boaz, il est en train de la bénir de ce qu'elle a fait. Il sait qu'il est rendu participant et qu'il a sa responsabilité personnelle dans la bénédiction providentielle. Tout ce texte manifeste en fait l'éthique de la compassion qui se vit en action et en vérité. La compassion a une place primordiale dans la providence de Dieu, car c'est par compassion que Dieu prend soin de nous et agence toutes choses pour notre bien. Ce chapitre est une source d'espérance pour nous, car il montre que la misère de Ruth touche à sa fin. Ruth espère en la fin de sa misère, elle espère dans la providence de Dieu, car elle sait que ce Dieu qu'elle ne connaissait pas avant pourvoit en toute chose. Et en fait, face aux circonstances difficiles, nous avons deux choix. Le premier, c'est d'en vouloir à Dieu. Même si on croit en lui, on peut lui en vouloir. Enfin, on peut. On a la possibilité de lui en vouloir. Mais on peut avancer en étant éloigné de lui. Et Naomi, en fait, est découragée par la mort de son mari, comme on l'a vu au premier chapitre, et par la mort de ses deux fils, ce qui n'est pas forcément une anomalie, parce qu'en fait, l'anomalie, c'est de persévérer dans le découragement. Et le second choix, que je nous recommande, en fait, c'est de se réfugier dans les bras de Dieu, de notre Père qui tient le monde dans ses mains, dans sa providence, et on peut grandir dans notre confiance en lui. En fait, Dieu se sert des mauvaises circonstances pour les rendre bénéfiques pour sa gloire. Et la preuve avec Ruth, en fait, elle est étrangère, pauvre, sans emploi. Sa seule activité pour elle, selon la société, était de se livrer à la prostitution. Chose qu'elle n'a pas fait. C'était vraiment une femme vulnérable, comme on en a dans notre quartier. Et Dieu, dans sa providence, est au-dessus des mauvaises circonstances, car il les a anticipées en méditant le bien, comme il a fait avec Joseph. Prenons l'exemple de Joseph. Il a été vendu par ses frères, car ils étaient jaloux de lui, puisqu'il était le fils préféré de son père. Et son père a eu tort de faire du favoritisme envers Joseph. Et cela, en fait, ça a suscité la jalousie et le péché de ses frères. Mais Joseph, après, est devenu gouverneur d'Égypte, rien que ça. Et Joseph revoit ensuite ses frères, qu'il avait donc vendu. En Genèse 45, il leur dit « Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en accordant une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. » Le passage montre à quel point Dieu est au-dessus du mal. Il n'est pas dépassé par le mal, même par les circonstances les plus misérables. Il soutient toute chose par sa main puissante, comme le dit Hébreux 1.3. Et quand les frères de Joseph viennent se jeter aux pieds de Joseph en Genèse chapitre 50, Joseph dit que lorsqu'ils avaient médité le mal, Dieu l'avait pensé pour le bien. Et avec Dieu, ça se termine bien. En fait, la providence de Dieu, ça ne signifie pas qu'il n'arrive que du bien à ceux qui aiment Dieu. Mais que même le mal concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et ce texte l'illustre, puisque Dieu donne plus que prévu à Ruth. Et tout ce qu'elle fait, en fait, ça porte du fruit. Lévitique, chapitre 25, verset 35, dit qu'il faut veiller aux besoins des nécessiteux de sa famille. Et Boaz met parfaitement en application cette loi. Et Boaz est vraiment un exemple en termes d'obéissance à Dieu. Il obéit aussi à la loi du Lévitique 19, je vous le résume, qui dit qu'il faut laisser le bord des champs, ne pas ramasser ce qui reste à glaner, ne pas cueillir les grappes restées dans la vigne, pour que les pauvres et les étrangers puissent en cueillir et s'en nourrir. En fait, Boaz va au-delà de la loi. Il transcende la loi, car en réalité, il donne plus à Ruth que ce qu'il a récolté en disant à ses ouvriers de récolter de leurs mains pour lui donner, et en insistant encore sur le fait de ne lui faire aucun mal. Et Ruth reçoit au-delà de ce qu'elle a vu et fait de ses mains. Boaz est un gentleman qui sait prendre soin des femmes vulnérables. En fait, ce qu'on reçoit de Dieu par sa providence ne s'arrête pas à ce que nos yeux voient. Lorsque nous servons, nous devons viser l'invisible, espérer en ce qu'on ne voit pas. D'ailleurs, Dieu est invisible et nous pouvons espérer en lui. Dans ces versets, en fait, Boaz bénit le travail de Ruth de manière humble et anonyme, sans le faire valoir. Boaz, comme Dieu, montre son amour en valorisant les personnes pauvres et vulnérables. Au verset 16, il utilise son pouvoir pour protéger Ruth des dures conditions de travail. Et on a vraiment besoin d'être sensible aux manières dont Dieu pourvoit. Car notre grand Dieu est étonnant. Et Dieu ne pourvoit pas qu'au travers de l'argent. Dieu pourvoit d'autres manières. Il pourvoit au travers des personnes de notre entourage, au travers du sol fertile qu'il a créé et qu'il nous demande de cultiver, c'est-à-dire au travers de notre travail, de manière générale. Et si Dieu nous a donné des mains, c'est pour travailler, et c'est par la grâce de Dieu qu'on a des mains. Sinon, on serait manchot et on s'ennuierait. Ce n'est pas par notre propre souveraineté, ni par notre propre mérite qu'on a du résultat dans notre travail. Mais c'est parce que Dieu nous fait la grâce de travailler. Et Dieu, en fait, il nous donne des outils pour travailler. Il nous donne des dons pour avoir des résultats. Est-ce que nous saisissons ces outils et mettons en application ces dons en se mettant au service des uns des autres? Dieu nous encourage à être actifs. Il nous appelle à entrer dans la moisson en nous rendant participants à son œuvre. La providence de Dieu dans le travail, dans ce texte, montre que Dieu ne veut pas seulement qu'on travaille pour occuper une place libre, mais pour aussi accomplir son œuvre spirituelle en étant serviteur de nos collègues. Vous pourrez demander des comptes à Vincent et Samuel pour savoir si je suis un bon serviteur auprès d'eux. Et Dieu, au travers de Boaz, dans leur miséricorde, bonté, amour, tous ces termes qui englobent le recède en hébreu, il donne au-delà de ce que Ruth imaginait, de ce qu'elle avait besoin dans l'immédiat, elle reçoit 22 litres d'orge en fuyant la famine. Sachant qu'à l'époque, ils mangeaient plus d'orge que nous, Dieu a donné à manger à Ruth et sa belle-mère en fait pour plusieurs semaines. Et c'était improbable, hein, quelques temps avant qu'elle vienne avec Boaz. Et avec ses 22 litres d'orge, elle rentre chez sa belle-mère, chez Naomi. Naomi est étonnée du résultat. Et dès qu'elle sait que c'est Boaz qui a béni Ruth, elle enchaîne en parlant du droit de rachat, dont le proche parent a droit en fait. Et en plus de pourvoir à ses besoins, Dieu pourvoit à ce moment-là à Ruth un futur mari, comme nous le verrons la semaine prochaine, c'est le petit teaser. Et Dieu, dans sa providence, a béni Naomi, car elle a Ruth qui veille sur elle, en fait. Et c'est la plus grande bénédiction en soi, que Dieu veille sur nous. Mais en plus, il nous met des personnes autour de nous qui veillent sur nous, qui sont participants à sa providence bienveillante. Lorsqu'on met sa confiance en Dieu, qu'on le met en premier dans nos vies, ses bénédictions sont perceptibles. Et la bénédiction dans ce texte, c'est l'immense récolte de Ruth. La providence de Dieu est rédemptrice. Elle sauve. Et Dieu, dans sa providence, a prévu que le Rédempteur viendrait. Jésus, le serviteur, c'est mon dernier point. Jésus est à la fois le maître de la moisson, celui qui moissonne, et celui qui donne le résultat de la moisson. Et comme le montrent les versets 22 et 23, il est bon de rester dans le champ dans lequel Dieu nous met afin d'y persévérer comme le fait Ruth, car Jésus, il est le premier et le dernier de la moisson. Il est le Dieu Tout-Puissant qui est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie pour nous afin que nous puissions récolter les fruits de l'Esprit. Il a pris soin des veuves, des orphelins, des prostituées, de tous les vulnérables en fait. Et en fait, en étant nous-mêmes le corps de Christ, il nous rend participants à cela. C'est puissant. Et en fait, ce passage pointe vers un avenir fructueux, une réjouissance dans la grâce de Dieu. Et la providence de Dieu, en fait, c'est la plus grande des bénédictions. Et la plus grande des bénédictions, c'est la vie éternelle, comme le dit le psaume 133. Et la providence de Dieu, en fait, c'est la route pour que nous ayons la vie éternelle. Et dans sa providence, Dieu a prédestiné Jésus avant la fondation du monde pour nous le manifester. En fait, tout l'évangile est exprimé dans la providence de Dieu. Pour terminer, la providence de Dieu montre que Dieu ne décrète pas seulement ce qui se passe ou non, mais en fait, il l'accomplit en dirigeant toutes choses. Et nous avons notre part de responsabilité car il nous rend participants à sa nature divine, comme le dit Pierre dans sa deuxième épître. Il fait en sorte que tout se fasse en fait pour notre bien. La providence de Dieu anticipe le mal. Elle s'étend même au-dessus du péché. Dieu transcende le péché. Il n'est pas impressionné par le péché. Et Ruth subit les conséquences des péchés d'Israël qui ont suscité le jugement de Dieu qui a amené à une famine. Et en fait, le cours du temps d'éléments hasardieux a amené la rencontre entre Ruth et Boaz. Savons-nous, comme Boaz, percevoir les personnes que Dieu a mises sur notre chemin pour prendre soin d'elles dans les temps difficiles? Dans les temps difficiles de découragement, il y a des personnes autour de nous qui ont besoin de soutien. Nous devons avoir le regard spirituel de Dieu pour le discerner. Sommes-nous prêts à obéir à la volonté de Dieu, à oser franchir le cap comme Ruth a fait? Que mettons-nous en œuvre pour se laisser disposer afin que Dieu puisse se servir de nous pour prendre soin des vulnérables, des étrangers manifestant des besoins? Nous avons notre part dans le plan providentiel de Dieu. Et comme le dit Jésus, à chaque jour suffit sa peine. Et Dieu, dans sa grâce, donne au-delà de nos espérances. Il donne au-delà de nos besoins immédiats, au-delà de ce que nos yeux voient. Et il anticipe dans l'invisible. C'est pourquoi nous pouvons marcher par la foi. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur pour ta providence. Elle nous dépasse. Merci Seigneur pour la croix, pour tout ce que tu as agencé depuis toute éternité. Je n'ai pas de mots pour exprimer ça. Je te rends grâce Seigneur. Je te prie de continuer à nous utiliser, à nous faire prendre conscience de la réalité des choses que nous enseigne ce texte. Merci Seigneur de nous transformer encore, à renouveler notre intelligence et à être des serviteurs de ta providence.